Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que... Oui, Radio Londres, ça y est, vous m'entendez? Ça va, les ateliers du vent? Salut à toi qui nous écoutes sur Radio Syllabe ou aux ateliers du vent à Rennes. Et surtout, sois bienvenue dans notre bande de potes queer. Je suis Mathieu, il est exactement 19h. Car oui, chers auditeurs, nous sommes en direct et...
En live!
En direct live de Nuit Sauvage organisée par Radio Syllabe aux Ateliers du Vent avec ce soir autour de la table Mado. Salut Mado!
Coucou!
Aujourd'hui, dans ta quête du queer, c'est un portrait que tu vas nous présenter, celui de Julie Daubigny, qui a eu une vie incroyable et dis-moi, et elle serait pas un peu lesbienne? Et just for you, Mado. En live, ce son, il est pour toi. Elle l'attendait depuis la rentrée.
Oui.
Puis nous retrouverons un duo inédit. Dès qu'il y a eu la possibilité de faire un live devant un public, leurs yeux se sont illuminés. Salut Clara et Emilien.
Salut Mathieu.
Vous nous parlerez du syndrome de l'imposteur et de la peur de l'échec. Et on sait tous que pour le combattre, il n'y a rien de mieux que le déni.
Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Et enfin, hello Cédric.
Hello.
Est-ce que ton casque fonctionne, Cédric?
Non.
Tu vas nous raconter l'histoire de Coccinelle, la toute première personne en France à faire une opération de changement de genre. Petit son.
Et même mon rêve, mais vraiment mon rêve, si je peux, je deviens une femme de la tête aux pieds.
À partir de demain, tu peux venir travailler ici en tant que femme.
C'est vrai?
Oui.
Merci, docteur.
Et pas de quoi?
Si... Je vais le faire.
On a vraiment hâte de découvrir cette belle histoire. En deuxième partie d'émission, nous serons rejoints sur le plateau par deux copines de l'émission Sortez les briquets, Laurine et Miley, qui nous parleront musique. Mais en attendant, pour passer ce début d'émission avec nous, nous accueillons dans notre bande Maëlle Cabaret. Bienvenue Maëlle.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur du documentaire Daydream qui passe ce soir même à l'Arvor autour de la vie du regretté Julien Clich, Dream de son nom de scène. Staff dans un hôtel le jour qui cumule les petits boulots et la nuit qui est drag queen. Merci d'être avec nous pour en parler avant de foncer au cinéma Arvor. Nous sommes le jeudi 19 janvier, il est exactement 19h03 et...
À défaut de prendre le pouvoir, les queers prennent l'antenne.
Vous écoutez Queer Me Out.
Moi, ce que j'ai pris la décision de faire, personnellement, c'est que j'ai mon un soir semaine, puis j'ai une job que j'aime, ça va rester comme ça. Je veux pas plus. C'est même plus une job, là, c'est rendu un hobby. Il y en a qui font de la poterie, il y en a qui font de... Ben moi, je fais de la drag queen. Un soir semaine. Le reste du temps, ben, j'ai ma job et je suis heureux et ça met du pain sur la table. Fait que le personnage ici, il est comme plus caché un petit peu. Il sort juste la nuit.
Voilà, Maëlle, nous venons d'entendre Julien qui joue Dream. Le documentaire s'ouvre sur un hommage puisque Julien n'est plus avec nous aujourd'hui, il est décédé. Avant de revenir sur son histoire, je voulais vous demander un peu quel était votre parcours à vous. D'où venez-vous?
Alors... mon parcours, c'est celui en fait de quelqu'un qui veut faire des films, pour commencer, et qui a bâti une stratégie, c'est-à-dire que pour devenir réalisateur, je voulais devenir réalisateur fiction. Et pour cela, les grandes écoles sont à Bac+2, donc j'ai décidé d'abord de devenir technicien, caméraman, chef opérateur. Donc j'ai fait un BTS pour ça, et puis j'ai poursuivi mes études par une licence d'art du spectacle pour me cultiver. Dans mon domaine, et puis c'est là où j'ai aussi finalement découvert ce qu'était le documentaire de création. Voilà. Donc en fait, mes envies de films, de fiction, Je les ai pas abandonnés, mais pour autant, j'ai découvert quelque chose d'autre, voilà, qui m'attirait davantage. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi vers un master de documentaire.
D'accord. C'est sur la route, finalement, que vous êtes rendu compte que le documentaire pouvait être aussi une nouvelle porte, quoi.
Tout à fait.
D'accord. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à suivre Julien, ou Dream, de son nom de scène ?
Alors, pour l'histoire, en fait, c'est un ami qui m'a parlé de cet endroit, voilà, qui connaissait. Et puis, on en a discuté... Je l'ai encouragé à faire un film autour du
lieu. Pardon, quand vous parlez de cet endroit, est-ce
Pardon, je suis allé un peu vite.
C'est le cabaret Mado ?
Voilà, tout à fait. J'ai été un peu vite. Donc en fait, moi, je ne le connaissais pas. Ça me paraissait assez fabuleux comme lieu. En tout cas, comme il me l'expliquait. Donc on a décidé d'y aller ensemble parce que moi, je l'encourageais à faire le film. Il n'était pas sûr de lui. Mmh. J'avais déjà fait un film. Donc voilà, dans l'excitation du moment, on a dit mais pourquoi on ne le ferait pas ensemble ? Donc on est parti ensemble. Et c'est sur place que, au-delà du lieu, en fait, on a fait des rencontres là-bas. Et moi, je pense que j'ai rencontré Julien à un moment particulier de sa vie.
Ouais.
C'était très dur pour lui.
Ouais.
Et c'était avant tout une rencontre humaine. Et je crois que c'est, au-delà du lieu, c'est le personnage qui m'a fasciné. Mmh. Voilà, j'ai décidé d'aller dans cette direction-là. Et là, on s'est...
Vous l'avez rencontré en drague d'abord ou en Julien, finalement ?
En Julien.
En Julien d'abord, d'accord.
Ouais. Et donc voilà, et donc pour terminer l'histoire, c'est que du coup on a pris une direction différente, moi et mon co-auteur à l'époque, en tout cas, lui voulait toujours faire un film sur le cabaret Mado, et moi je voulais absolument faire un film autour de Julien.
Plutôt centré sur le personnage de Julien, quoi.
Ouais.
D'accord. Et effectivement, on voit, on a vraiment, c'est un documentaire, bon, si on se la pète, on dirait sans concession, mais eux au Québec disent rough, un peu brut. C'est voulu, hein, on voit le beau comme le moins beau, on voit. Le joyeux comme le triste, c'est un parti pris.
Oui, tout à fait. En fait, je pense que, comme je disais, je l'ai rencontré à un moment qui était dur pour lui. Et le préalable, c'était de dire que pour qu'on fasse ce film ensemble, en fait, il fallait qu'on mette un petit peu, qu'on dise un petit peu tout, qu'on ne se cache pas. Voilà.
Ouais.
Et en gros, il m'encourageait d'ailleurs à montrer un peu l'arrière-scène. C'est-à-dire,
d'accord,
au-delà du côté paillettes, moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de voir justement l'envers du décor un petit peu.
Okay.
Et donc de faire un portrait autour de quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il peut représenter sur scène, où tout le monde voit le beau, voilà,
oui,
en réalité ce qui se passait derrière n'était pas évident, et c'est ce qu'il me témoignait, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, c'est lui qui est venu presque me proposer qu'on fasse ce film ensemble, et donc je l'ai suivi comme ça.
C'est presque un documentaire intime, comme un journal de bord de son expérience, parce que du coup donc, autour de la table je suis le seul à avoir eu la chance de le voir, puisqu'il passe en avant-première ce soir à l'Arvor à 20h30, donc si vous êtes chez vous, là, que vous nous écoutez en direct, et il n'est pas trop tard pour y aller, l'entrée est gratuite, c'est un très très beau documentaire, donc oui voilà, où on suit, moi c'est ça qui m'a touché, c'est qu'on voit vraiment une vraie différence quand il vous parle en Julien, quand il témoigne, quand il s'exprime, on sent effectivement la fatigue, la solitude, le manque d'équilibre même presque avec son personnage, son alter ego Dream. Et par contre, dès qu'il y a les séquences sur scène, il n'y en a pas beaucoup, et je pense que c'est bien justement, enfin moi, à mon avis en tout cas, c'est ce qui m'a plu, mais on voit cette vraie différence en fait, où tout d'un coup il s'illumine. Il a une magie quand il parle en coulisses avec les autres personnes qu'on ressent moins, enfin vraiment différentes. Donc ça a capté, j'imagine que c'était intéressant pour vous, parce que quand moi j'ai vu le documentaire, je vous voyais plus en fait. Donc, j'avais vraiment l'impression de suivre cette personne. Vous n'étiez pas présent, c'était voulu, j'imagine.
Oui, c'est un peu une démarche en fait, et de travailler dans le temps et de faire un film où on rentre dans l'intimité des personnages. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle de documentaire de création à ce niveau-là, c'est que les personnages deviennent comme des personnages de fiction finalement, mais c'est leur propre vie.
Ouais. Ouais. Et ça, sur un peu le concept après, plus l'aspect technique, comment est-ce qu'on met en place cette intimité ? Comment est-ce qu'on met en place cette présence sans être vu finalement, pour être le plus juste, j'imagine ?
Alors déjà, travailler dans la durée, je pense que c'est important. C'est quelque chose qui fait qu'on peut avoir une relation particulière avec quelqu'un. Donc ce film-là, il s'est fait quand même sur très très longtemps.
Ouais. En quelle année vous avez commencé ?
2013.
2013.
C'est un film qui dure sur 10 ans.
Ouais.
Donc forcément, c'est dans le temps. Alors pour différentes raisons, mais déjà de base, c'est comme ça que j'aime travailler. Mmh. Et puis après, d'un point de vue plus technique, peut-être aussi, c'est que j'aime travailler seul. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi j'ai une formation de caméraman, en fait. Et ça me permet justement, il faut imaginer que Julien, j'ai filmé quand même beaucoup chez lui.
Ouais.
Voilà, il avait une colocatrice, mais voilà, on était trois en fait. Et très souvent, on était juste trois dans l'appartement. Et c'est-à-dire que pour pouvoir filmer des moments d'intimité, il faut être longtemps sur place, il ne faut pas être en équipe, on compte nos heures.
Voilà, réduire au maximum l'équipe, d'accord.
Ouais.
Et je voulais savoir, quand on voit le documentaire fini. En plus, il y a eu malheureusement... Julien est décédé pendant ce tournage-là. Comment est-ce qu'on met en place la trame narrative pour que ça tienne 50 minutes ? Est-ce que c'est une idée que vous aviez en tête de toute l'histoire ou est-ce que vous avez filmé et après orienté ce que vous vouliez montrer ?
Alors, je ne connaissais pas l'issue, déjà de base, oui. Évidemment. Il devait y avoir un dernier tournage qui n'a pas eu lieu. Mmh. Mais dans ma tête, le film devait quand même pas être trop plombant et je voulais finir sur une note positive. J'avais prévu de filmer que... à l'automne, à la base. Parce que je le voyais quand même un film globalement assez triste, même peut-être un peu pessimiste, parce que c'est ce qu'il me renvoyait, mais je voulais pas que ce soit que ça. Sauf qu'au final, ça a été que ça, puisque du coup, il est décédé avant la fin. Mais pour ce qui est de la trame et de filmer, je filme pas tant que ça, et pour différentes raisons, c'est que déjà, c'est à l'autre bout du monde.
Oui, oui, ça se passe à Montréal. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et que après, c'est aussi une il y a des subventions qui font qu'on a des moments où on décroche de l'argent pour y aller.
D'accord.
Voilà, donc il y a des phases et puis est intervenu notamment Covid, etc.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pris en compte même dans le documentaire finalement. Comment cet artiste qui a d'habitude de vivre la nuit et dans des bars qui ont fermé. Donc vraiment, effectivement, il y a toute la trame dramatique en fait qui se met en place autour de ces événements qu'on a connus maintenant, quoi.
Et qui ont participé à son décès, du coup.
Oui, malheureusement. Ouais. Parce qu'effectivement, donc, comme on disait, vous montrez... Je ne sais pas si c'est pessimiste. Moi, je l'ai mis en exergue avec la série de documentaires Drag Save the Queen qui est passée là récemment, qui était quelque chose de très, je trouve, américanisé. Alors moi, j'ai bien aimé dans l'aspect feel-good de ce format-là, où les drags parlent face caméra, on sent la présence de toute façon de la réalisation et quelque chose de très promotionnel. Et là, pour le coup, ce qui me touche, moi, dans Daydream, du coup, et dans le personnage de Dream, c'est qu'on suit... n'importe qui, en fait. On suit la drague qu'on peut voir dans n'importe quelle soirée. C'est pas la drague, c'est pas RuPaul, c'est pas une drague qui avait une grande notoriété publique et pourtant qui avait une vraie action au cœur de ce qu'elle faisait au cabaret Mado et qui avait on voit en plus sur la durée, les costumes, toutes les perruques qu'elle a eues, etc. Et c'est ça que je trouvais intéressant, ce focus sur justement peut-être quelque chose qui me semble, moi en tout cas, plus réel. Plus à portée de main en fait des drags qu'on peut connaître nous ou côtoyer et en plus même un marqueur d'une époque parce qu'elle a il a la quarantaine
il avait 39 ans quand il est décédé.
Effectivement, donc il a connu quand même une autre époque aussi du drag avant que ça devienne à ce point mainstream et grand public. Donc c'est un peu un moment, je trouve, un clé qui est marqué mine de rien, qui est gravé quelque part. En tout cas, il y a ce fichier, cette vidéo qui sort donc là ce soir en avant-première. Hein, on le répète, à la revoir à 20h30. On va bientôt vous libérer, Maëlle, ne vous inquiétez pas. Je voulais justement, comment on aborde cette question du décès, puisque c'est annoncé dès le début dans le documentaire, en fait. Est-ce que pour vous, finalement, le diffuser et monter quand même ce documentaire, c'est un moyen d'avoir ce témoignage ? Malgré le décès, Julien et Dream existent encore. Est-ce que c'est pour vous une volonté ?
De le faire exister encore, oui, bien sûr. Alors, moi, je l'ai fait... Je ne l'ai pas commencé pour ça, on va dire.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on s'était dit, on montrait les marges d'un grand festival ensemble. Enfin voilà, on avait bâti quand même plein d'espoir autour du projet. Quand il est décédé, en fait, s'est posé vraiment la question de savoir si le film était abandonné ou pas.
Bien sûr.
Ça s'est discuté avec la production, mais ça s'est discuté avec la télévision aussi qui a préacheté le film.
D'accord.
Et avant ça, du coup, il a fallu faire un peu le tour de ce qu'on avait, ce qui était possible ou pas. Et c'est là où on a longtemps réfléchi avec la monteuse justement sur l'orientation que prendrait le film, sur d'assumer ce décès, de changer l'histoire, parce que finalement il y a question d'alcool beaucoup dans le film, c'était pas prévu, mais c'était vraiment dans les rushs en réalité. Oui. Et pourtant beaucoup de rushs où je ne le savais pas en plus au départ.
D'accord.
Donc en fait le film a pris son envol par lui-même, il a pris une direction qui m'appartenait pas en fait.
Oui. Et finalement, bon après, ce n'est que mon avis, mais moi je trouve ça effectivement très bien et j'étais très touché de le voir et je me dis, on se pose la question en ce moment de la culture queer, du stockage entre guillemets, de ces infos, de l'héritage, etc. Mine de rien, Daydream est une nouvelle pierre, une nouvelle brique un peu à cet héritage-là pour pas que perdent et disparaissent les histoires en même temps que les acteurs qui les jouent et qui les vivent dans la vraie vie. Donc moi c'est ce qui m'a beaucoup touché. Est-ce que, du coup, quel va être l'avenir du coup de ce documentaire-là ? Il est en avant-première et quelle va être sa vie finalement ? Est-ce qu'il y a un message à faire passer ou des demandes ?
Alors, comme je disais, en fait, il est préacheté par une télévision qui est la télé locale de Lyon.
D'accord.
Lyon Capitale Télé. Et après, là, il va démarrer, je l'espère en tout cas, une vie en festival. Donc, c'est ce que je lui souhaite. Et par la suite, voilà, plus en fait son existence en festival sera importante, plus il aura peut-être de répercussions et on pourra imaginer une seconde diffusion ou un rachat plus tard sur
D'accord.
la durée. Voilà.
Très bien. Oui, ne pas hésiter à le programmer sur des festivals ou sur des... quand il y a des focus. Là d'ailleurs, c'est ce qu'on se faisait l'écho du focus queer de Rennes 2 qui a lieu tout le mois de janvier. Bah, mine de rien, comme sans se consulter, l'Arvor propose un documentaire quand même très intéressant. Et je rappelle que l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à y aller. Maëlle, une dernière question pour vous que nous posons à tous nos invités. Pour vous, c'est quoi le queer ? Et j'insiste, nous n'avons pas besoin d'une réponse d'expert, c'est vraiment vous, votre avis. Ça vous évoque quoi ? C'est quoi pour vous le queer ?
Alors évidemment, je ne suis pas spécialiste, hein, vous l'avez bien compris. Bon voilà, moi je dirais sur la question de, peut-être de la différence, on va dire, de l'appartenance. Je vais répondre tout en revenant à mon propre projet. Et ce que m'a apporté aussi cette relation avec Julien. Il faut voir que Julien, en fait, cette différence, il a quand même... Enfin, moi, je l'ai comprise en le suivant sur la durée. Il portait en lui cette différence, à la fois quand il était jeune, puisque dans son quartier, en fait, il n'avait pas d'amis, etc. Mmh. Et sa voix... Alors, je fais une petite digression, mais en fait, il est passé par le plongeon. Il était promu... en tout cas, il devait devenir plongeur olympique. Il en était quasiment là. Avant de devenir drag queen, c'était un peu particulier, mais du coup même là finalement dans le plongeon il trouvait pas sa place, comme il trouvait pas sa place encore avant, et en fait même drag queen il a eu du mal à trouver sa place en fait. Il avait pas que des amis, et pourtant il se trouve que c'était le numéro 2 drag queen après Mado en fait au Canada, au Québec pardon. Donc il avait quand même une place de choix, mais c'est à dire que moi c'est là où le côté queer en fait je le vois, c'est qu'il avait vraiment ce petit pas de côté, on va dire. Et c'est ça que je trouve touchant.
C'est très, très beau. Le queer est un pas de côté. Merci pour votre réponse, Maëlle. Vous allez nous quitter pour courir jusqu'à l'Arvor pour présenter votre film en avant-première. Et vous allez le faire sur la chanson Euphoria de Laurine qui clôture votre documentaire. Et on va d'ailleurs entendre un petit extrait de Dream. Et vous entendrez d'ailleurs dans le morceau les applaudissements que Dream mérite. Merci Maëlle.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci Maëlle.
Alors là, vous risquez de accueillir votre créatrice de ce soir, la belle, la somptueuse, l'unique, Dream.
Why can't this moment last forever? Eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing.
Voilà, Euphoria de Laurine avec les applaudissements que mérite la drag queen Dream. Voilà, on l'en... Très belle scène finale du documentaire où on découvre que Julien et la drag queen a des problèmes de jambes et ce numéro, dites-vous qu'elle le fait sur pointe. Voilà, je... Allez, vous êtes sur Radio Syllab, vous écoutez toujours Queer Me Out et il est 19h21, l'heure de me tourner vers Mado qui complète sa quête du queer. Mado, c'est à toi.
Oui, en 2023, la lutte continue et la quête du queer aussi. Pour démarrer l'année en beauté, bonne année d'ailleurs, j'ai laissé de côté mes petits gays dramas du 19e pour plutôt vous parler de celle que j'appellerais une icône big win du 17e siècle, Julie d'Aubigny. Alors attention pour une fois, rien de ce que je vous raconte aujourd'hui ne sort d'un roman, même si vous allez voir, on dirait vraiment que c'est le cas, et elle en a d'ailleurs inspiré un à Théophile Gautier, entre autres.
La classe.
Les aventures rocambolesques qui vont suivre ont été vécues par une vraie personne, et d'ailleurs, ça n'en sera qu'une petite portion, un best-of si vous voulez, parce que vraiment, Julie, sa vie, elle était trop folle pour tenir en 5 minutes de chronique. Mademoiselle de Maupin, née Julie d'Aubigny, est une actrice, cantatrice, épéiste et duelliste française. Ouais, voilà, c'est un peu la classe quand même. Hein. Si vous cherchez son nom sur Google, vous tomberez sur le portrait d'une très belle rousse, aux cheveux ondulés qui n'ont pas l'air de vouloir rester attachés, avachie dans un canapé en velours qui vous regarde dans les yeux, avec un grand sourire aux lèvres et son épée nue à la main. Elle est vêtue d'une robe de velours noir, de gants de cuir noir également, et d'un plastron d'escrime blanc orné d'un petit cœur rouge là où l'on vise lorsque l'on s'entraîne dans les salles d'armes. Donc déjà, normalement, là, comme la moitié des Gwyn de France fin 17e, vous êtes tous amoureux rien qu'avec ça. Mais commençons par le commencement. La petite Julie d'Aubigny est née en 1670 ou 1673, on a un petit doute là-dessus. Son papa est le secrétaire du comte d'Armagnac, qui est en charge de l'éducation des pages de Louis XIV. Et c'est exactement cette éducation que Julie reçoit. Comme aux garçons, on lui enseigne les lettres, la grammaire, la danse, le dessin et l'épée. Plus précisément, la rapière et le fleuret. Julie grandit et a une première liaison amoureuse avec le comte d'Armagnac, l'employeur de son père. Youpi ! Pour cacher ça, on la marie au sieur de Maupin à Saint-Germain-en-Laye. Mais la nouvelle mademoiselle de Maupin préfère rester vivre à Paris. Comme vous commencez à le comprendre, c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'elle voulait plutôt que ce qu'on attendait d'elle. Elle fréquente les salles d'armes et bientôt tombe amoureuse d'un nouvel homme, un maître d'armes du nom de Serane. Alors là, si on s'imagine le film de sa vie, perso, je vois déjà l'acteur un peu brun ténébreux, les yeux brillants, le sourire en coin, barbe naissante et les scènes de duel où l'élève dépasse le maître et au moment où l'un coince l'autre avec son épée, la tension monte et... Et ils ont des ennuis avec la police, car ça arrive à l'époque quand on se bat en duel et qu'on a des relations hors mariage. Et ils fuient ensemble à Marseille, où, pour vivre, ils deviennent artistes. Ils donnent des spectacles de chant et de duel dans lesquels Julie s'habille en homme. Quand je vous dis que les drag kings, ça ne date pas d'hier. En parallèle, Julie se forme à l'académie de musique de Pierre Gautier, un ami de Lully, à l'Opéra de Marseille. Et alors là, les amis, on oublie le beau brun parce que Julie reçoit les faveurs d'une jeune femme et elle tombe amoureuse. Évidemment, les parents de la dulcinée ne sont pas trop pour et ils l'envoient au couvent en Avignon pour protéger son honneur. Et là, accrochez bien vos ceintures, Julie la suit en secret, entre au couvent en tant que novice et elle profite en cachette de leur relation là-bas. Lorsqu'une vieille nonne du couvent décède, Julie a un plan pour délivrer sa belle. Elle déterre le corps, le met dans le lit de la jeune fille, met le feu à sa chambre avant de s'enfuir ensemble. Elle voyage 3 mois incognito à travers la France et puis Julie remonte seule à Paris. Et ça, c'est un peu fini, apparemment. Triste. Grâce à sa belle voix de mezzo-soprano et ses talents de danseuse et d'actrice, elle intègre à 20 ans l'Académie royale de musique qui allait devenir l'Opéra de Paris.
Elle a 20 ans, là ?
Ouais. Ça, c'est avant 20 ans. Alors, je vais devoir aller très vite sur les nombreuses anecdotes savoureuses de cette période, mais sachez qu'elle aura des liaisons avec plusieurs des cantatrices soprano de l'opéra. Continue son activité de dueliste en parallèle, et une fois s'habille en homme pour botter sévèrement le cul à un ténor ivrogne qui manquait de respect aux chanteuses. Après, elle lui dit que c'était elle et tout, en plein milieu du travail. Enfin, bref. Wow. On a aussi plusieurs scènes croustillantes à la cour royale. Un combat à 3 contre 1 lors d'un bal, ou aussi un moment d'anthologie lorsqu'elle embrasse fougueusement une femme au beau milieu de la salle de bal, à Versailles sous Louis XIV.
La classe.
Voilà. Wow. À un moment, elle doit aller se faire oublier à Bruxelles après des duels sanglants. Puis elle reviendra quelques années plus tard à Paris pour reprendre sa carrière à l'opéra, notamment dans les tragédies lyriques de Lully. Le compositeur André Campra écrira pour elle le premier rôle féminin mezzo-soprano de l'opéra français, Clorinde, dans la pièce Tancrède qu'on écoute. Après d'autres duels, d'autres chants, d'autres amantes, Julie d'Aubigny prend sa retraite de l'opéra et meurt dans un couvent en 1707, ayant donc entre 33 et 37 ans. De notre point de vue de moderne, ça fait une courte vie, mais quelle vie.
Bah ouais, bien rempli. Bien rempli, oui, effectivement, à 37 ans d'avoir fait tout ça. Mado, est-ce que tu as des références, si on veut se renseigner sur la vie de Julie d'Aubigny un peu plus
Oui, alors je vous parlais du roman de Théophile Gautier. Pour le coup, c'est pas biographique. En fait, il s'est inspiré d'elle pour créer son personnage qu'il a appelé Madeleine de Maupin.
Okay.
Et donc, c'est un roman épistolaire qui a l'air vraiment bien, mais c'est vraiment une inspiration, c'est pas biographique. Les films et téléfilms qui ont été faits pour l'instant ne me convainquent pas beaucoup, mais par contre, en 2022, est sorti un roman jeunesse qui a l'air très bien, qui s'appelle Une pour toutes.
Okay.
Et c'est à l'école des loisirs.
Et ça parle de Julie d'Aubigny, du coup,
pour la jeunesse. Celui-là a l'air vraiment plus biographique et accessible jeunesse. Il a l'air très chouette. L'illustration est trop belle, en plus, sur la couverture.
Eh bien, on attend que Céline Sciamma se mette sur le dos.
Allô, Céline.
STP, Céline.
Ouais, j'avoue. ça parce que c'est une vie de film, quoi.
Ouais.
Et donc, Laurine nous a rejoint sur le plateau. Salut Laurine.
Salut Laurine.
Hello.
Laurine de l'émission Sortez les briquets qui passe aussi sur Radio Silab. Donc, c'est le petit milieu médiatique queer qui se retrouve autour de la table. On a pris le pouvoir. Laurine, tu vas nous parler de votre mode du pourceau que tu nous as sélectionné.
Ouais, absolument. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir.
Merci d'être venu. On est trop contents.
On vous écoute fidèlement et puis on adore le contenu et du coup, c'est vraiment un plaisir d'être là et en direct. Tout pareil.
Tout cœur.
Oui, moi aussi. Voilà, cœur avec les doigts. Et du coup, je voulais vous parler de musique parce que c'est ce qu'on fait dans Sortez les briquets.
Ouais.
Je voulais juste vous parler en fait d'un groupe que j'adore depuis longtemps, depuis toujours, depuis ma tendre adolescence. Et qui je trouve il y a deux chanteuses emblématiques là-dedans, mais elles sont pas forcément très identifiées. Donc je viens vous parler de Kate Pearson et Cindy Wilson, qui sont deux membres fondatrices du groupe B52s, que vous connaissez peut-être. J'ai des adeptes, ça va. C'est des meufs qui sont complètement emblématiques, avec des looks complètement extravagants et notamment des coiffures incroyables. C'était pour ça que je voulais tout simplement en parler, parce que c'est un groupe qui me tient trop à cœur, avec des chansons qui donnent tellement d'énergie, d'amour, envie de danser, mais aussi de tout renverser. Donc c'est plutôt cool.
Donc on est aux ateliers du vent, donc allez-y, dansez et renversez tout, puisqu'on n'est pas dans les studios de Radio Silla, donc lâchez-vous.
Absolument.
Et quel titre on va écouter du coup ?
On va écouter 52 Girls. Et juste pour revenir sur le nom du groupe, parce que c'est un nom quand même un petit peu énigmatique.
Ouais.
B-52, ça représente les avions bombardiers à la base, mais il n'y a aucun rapport avec ça en fait.
D'accord.
C'est aussi un cocktail. Je sais pas si vous l'avez déjà aimé. Moi j'adore les cocktails, donc voilà. Mais c'est aussi dans l'argot en fait, c'est un mot qui était utilisé aux États-Unis pour parler des coiffures complètement volumineuse en fait. Voilà.
Et donc on dit B52 pour une...
Pour une grosse choucroute en fait. Littéralement, c'est l'équivalent de la choucroute en France. Quoi.
Wow.
Et donc voilà, ça évoque Marge Simpson, la comédie musicale Hairspray.
Ouais.
Je connais pas du tout.
Ou Clara et moi le matin, on réveille.
Ouais, c'est ça. Okay. Ça fait aussi, je ne sais pas.
C'est ça. Sort à B52. Eh bien super, on s'écoute donc de 52 Girls.
Yes,
c'est ça, de The B52s. We'll be right back. Les B-52s. Les B-52s. Free jazz. Sur Radio Syllab, vous écoutez Queer Me Out en direct et en live des Ateliers du Vent pour la nuit sauvage. Jusqu'à minuit, toujours en compagnie des copines de Sortez les briquets. Merci pour ce morceau et j'en dis pas plus, mais le deuxième risque de mettre l'ambiance, n'est-ce pas? Il est 19h34 et c'est le moment d'écouter Clara et Emilien pour une chronique à deux mains et à quatre bouches, non à deux bouches et à quatre mains. Quand j'ai annoncé que l'émission serait en live, elles n'ont même pas attendu qu'on leur propose et se sont emparées du créneau pour vous faire rire pendant 4 minutes.
4 minutes ?
Quoi ?
Oh là là, attends, on n'a pas de temps à perdre.
Kevin, musique s'il te plaît.
Il se dirige dans la salle des Ateliers du Vent. Il fend la foule.
Emilien vient de mettre des lunettes de soleil.
Ah oui, il faut une entrée.
Oh wow.
Okay.
Oh wow. Woo!
Ça tabasse quand même. Hein.
Salut Clara.
Salut Emilien, tu vas bien?
Bah écoute, ça va bien, mais je pense qu'on peut arrêter de faire genre qu'on se voit pour la première fois de la journée. Hein. On est en public, les gens voient bien qu'on essaie de les pigeonner depuis une petite heure. Là.
Oui, c'est vrai. Et puis en plus, on est jeudi, c'est l'heure de l'apéro, donc vous en êtes sûrement à votre 5e tech paf. Mais si, vous voyez lequel c'est celui juste avant le 6e où ça part tabasser à Sainte-Anne, vous savez. Voilà. Enfin bref, c'est pas une raison pour vous prendre pour des lapins de 6 semaines, on est bien d'accord.
Ah, certainement pas, hein. D'autant qu'aujourd'hui on parle d'un sujet sérieux.
Ah, ça oui, ah, vous vous disiez, je vous vois bien, vous vous disiez, les deux guignols ils sont sortis, on va pouvoir se fondre la poire. Eh ben non, vous mettez bien le coin dans l'œil, parce que ce soir c'est ambiance, les parents ont demandé une réunion de famille et vous êtes dans notre salon, et c'est nous qui faisons les 100 pas. Parce qu'on parle de quoi ce soir, Emilien?
On parle du syndrome de l'imposteur. Qui parmi vous ne sait pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Personne évidemment, parce que vous êtes étudiant et étudiante.
Oui, on ne va pas faire l'affront de vous détailler de quoi il s'agit. C'est comme si on venait vous expliquer c'était quoi la dépression ou la précarité. On est dans un lieu fréquenté par les étudiants de Rennes 2, donc littéralement tout le public sait de quoi on parle. Mais pour les douceurs qui écouteront le podcast ou qui écoutent le live en ce moment même, on peut peut-être donner la définition, Emilien.
Bien sûr, et pour les deux du fond, hein, le syndrome de l'imposteur, c'est pas quand vous avez tout le temps le même rôle sur Among Us. Et on expliquera à Mathieu ce que c'est Among Us à la fin de l'émission.
Merci.
Une chose à la fois, s'il te plaît. Donc, la définition, je vais faire comme quand j'ai dû valider mon année, je vais sortir Wikipédia. Alors, le syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, phénomène de l'imposteur ou expérience de l'imposture, est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel.
Yes, I.
Dans certains cas, la personne atteinte peut aller jusqu'à se percevoir souvent comme une sorte de duperné qui abuse ses collègues, ses amis, ses supérieurs et s'attendre à être démasqué d'un jour à l'autre.
Globalement, c'est l'inverse d'être un mec cis-hétéro, patron d'une entreprise du CAC 40, c'est-à-dire penser qu'on ne mérite pas sa place alors qu'on a toutes les qualités. À ceci près toutefois que soutenir des dictatures militaires et avoir le syndrome de l'imposteur ne sont pas mutuellement exclusifs, je vous le rappelle.
Heureusement pour vous, mes queerzous, vos tatas sont là. Pour vous rassurer, on va vous faire sortir toutes ces mauvaises idées qui grignotent vos jolies petites têtes.
Bah, tout à fait, parce qu'en plus, nous autres les stars, le syndrome de l'imposteur, on ne le subit pas.
Exactement. Mais ça voudrait pas dire qu'on n'est pas légitime à en parler, du coup?
On ne le subit pas toujours.
Ouais, mieux.
Voilà, on n'est pas des experts, quoi. Ah bah bon. Il y a aussi le fait que je parle sur une radio rennaise, sans venir du coin. Mais heureusement, toi, t'es là, donc c'est bon, tout va bien.
Bah non, moi, je viens de Picardie, en fait.
Bah, au moins, on est encore étudiants et étudiantes, donc on est légitime à parler devant un public qui écouterait la radio de Rennes 2.
Moi, je travaille depuis 2 ans.
Et bah, écoute, ça fait rien, au moins, on est queer, hein, c'est déjà ça.
Ah, ça, oui, c'est bon, on est queer jusqu'à l'os, hein. On pourra pas nous l'enlever, ni classicité, hétéronormativité, tout ça.
Grave, on sait que le genre, c'est une construction sociale, on milite, on va manifester, on connaît la discrimination de la société par rapport à nos relations non-hétéro, on est bien... Quoi, Emilien?
Bah en fait, j'ai jamais eu de relation...
Ok, le syndrome de l'imposteur, tout le monde, génial. Sacré sujet. Bien. Bah écoute, quitte à l'assumer, on n'a qu'à vous faire une masterclass, comme disent les jeunes, sur comment lui dire d'aller bien se faire voir. Ça vous va?
Voilà, ça c'est bien.
Super. Je me permets donc, Emilien, j'ai l'impression de t'interviewer, j'adore, c'est un grand moment. En tant que mec bisexuel, tu as souvent des réflexions sur ta légitimité queer, que tu nous communiques à nous, tes amis et collègues, alors que être bi... Ben c'est comme le port salut, c'est écrit dessus.
Tout à fait, et ces réflexions, figure-toi qu'elles viennent en grande majorité d'une personne qui me casse la tête depuis un moment, qui n'est autre que moi-même.
Je connais.
Ben oui, ça se passe là-haut, tout ça. Et si je peux faire... attendez, je peux faire aussi le menu best-of des pensées à la con. Hein. Est-ce que je suis un vrai queer? Est-ce qu'en fait, je veux pas juste me faire remarquer? Est-ce qu'un jour, je vais pas réaliser que je me suis planté? Est-ce que je suis un vrai queer si j'ai pas encore pécho? Si j'ai pas encore crushé sur Pedro Pascal.
T'as pécho le daddy? C'est l'exclu ce soir.
Malheureusement. Maintenant qu'on a dit ça, on taille sur l'autoroute arc-en-ciel, pied au plancher, vitre ouverte et girl in red à fond, et on laisse passer toutes ces vilaines pensées-là au fond de la tête. Être LGBT, peu importe... Ouh là. Disais-je, être LGBT, peu importe la lettre, c'est être rattaché à une figure hégémonique, une vision fantasmée par la société de la personne type de ton groupe social, au même titre que les meufs cis-hétéros par exemple. Et bonne nouvelle, cet idéal est complètement inatteignable. Donc, célébrons ensemble cette grande fierté d'être toutes et tous de sublimes échecs.
Et même si tu t'y retrouves pas totalement, on n'est pas au partiel du semestre des queers en fait. Parfois, moi, je me questionne sur ma légitimité à me dire lesbienne, parce que je suis une personne non-binaire. Mais déjà, le sexisme et l'homophobie, je les subis hein, au quotidien, en fait. Parce qu'aux yeux de tous les gens qui ne me connaissent pas, non, je ne suis pas uniquement ce corps de rêve que vous voyez ce soir aux Ateliers du Vent. Je suis aussi dans une relation homosexuelle et dans la rue, selon les charros, je suis perçue comme une mademoiselle.
Un délice.
N'est-ce pas? Au-delà de ça, personne ne peut réellement remettre en question mon appartenance à la communauté queer si on se base sur toutes les infos que je vous ai données plus tôt et sur ma meuf qui est présente actuellement dans la salle. Donc, pourquoi moi, je me rajoute une pression comme ça? J'ai pas assez de problèmes? Si, vraiment, j'ai assez de problèmes. Arrêtez maintenant. Je vous jure. Donc le syndrome de l'imposteur, j'aimerais bien lui dire d'aller se faire...
Et du coup, c'est quoi ton petit tips pour te sentir légitime dans tes bottes? Enfin, tes docks en cuir vegan.
Attends, je respire un peu, si je me suis énervée là.
Oui, t'inquiète, je prends. Alors, en attendant que tu reviennes un petit peu parmi nous, laisse-moi, laisse-moi te dire que t'as bien raison d'être vénère, et nous, vous tous aussi là, dans le public. On en subit déjà assez comme ça. Pour pas s'en rajouter une couche de plus sur les questions qu'on se pose. Genre, je veux dire, c'est pas, quand tu te remets en cause, c'est genre quand ça fait trois fois que t'échoues à passer ton partiel en mode talent, quoi. Genre, pas quand tu te questionnes par rapport aux personnes que tu aimes ou par rapport à qui tu es. Faites-vous confiance à la fin, quoi.
Bah, c'est vrai. Et est-ce que tu sais également, ce qui est très bien aussi, Emilien, c'est de s'entourer de personnes qui t'aiment et t'encouragent, comme au cours de cette table. Ouais, je sais. C'est un secret super bien gardé. Je vous le partage avec vous ce soir, c'est gratuit. Et d'ailleurs, si tous ces doutes, ça prend trop de place dans ta tête, tu peux toujours t'adresser à des professionnels. Je pense à des psys, mais comme on est dans le local, dans le dur de la radio étudiante, je parle aussi de la santé étudiante du bâtiment EREV à Rennes 2.
Waouh, mais la coïncidence de fou, on est justement à Rennes.
Mais oui.
Folie. En règle générale, pensez à quelqu'un qui ne doute jamais, genre une idole ou un gros con, hein, comme vous préférez. Et mettez-vous dans son mood, ça va rouler tout seul.
Oui, pour conclure, c'est 4 minutes qu'on n'a pas respectées. Bisous Mathieu. Oui, c'est clairement ça. Si tu doutes de toi, une seule question se pose. WWJMBD. What would Jean-Michel Blanquer do?
Et radiophonique, il montre des tatouages What would Jean-Michel Blanquer do, hein, allez, sur leurs bras. J'en profite pour rappeler que Clara, on peut t'écrire pour ta rubrique courrier du queer.
Tout à fait, je suis une personne pas du tout diplômée qui répond à vos problèmes de vie. Vous pouvez m'envoyer des DM, enfin non pas moi, ne m'envoyez pas de DM.
Vous pouvez écrire, oh là, wow. On va commencer. Donner l'adresse, vous pouvez écrire en message privé sur l'Instagram ou sur les autres réseaux @queer_meout. Il y a tout le linktree avec tous
tout
les endroits
le là.
Où on peut te déposer des messages vocaux qui peuvent après nous amener à faire des chroniques ou à discuter de sujets qui vous intéressent. D'ailleurs, si vous nous écoutez en ce moment en live chez vous ou ailleurs, mais en tout cas en direct, ben, n'hésitez pas à nous envoyer des DM et à commencer à nous suivre sur Instagram, parce qu'il y aura un petit jeu à la fin avec des super beaux cadeaux à gagner. Et ne vous inquiétez pas, l'Atelier du Vent, il y aura des cadeaux pour vous. Quand il y en a pour un, il y en a pour l'Atelier du Vent. Sur ce, je me tourne vers Cédric qui va aujourd'hui, de quelle légende queer tu vas nous parler?
Aujourd'hui, je vais vous parler de Coccinelle, la meneuse de revue et pionnière de la communauté LGBT qui fut la première personne française à entreprendre une intervention chirurgicale d'affirmation de genre. Elle est née à Paris en 1931. C'est une enfant qui grandit dans une famille aimante et qui accepte sa féminité. Elle se teint les cheveux, s'habille de vêtements féminins. Celle qui n'a pas encore de nom sera coiffeuse, puis groom à l'Automobile Club de France avant de venir toquer à la porte du cabaret de Madame Arthur en 1950. La voyant arriver dans une robe rouge à pois noirs, l'animateur s'exclamera « Oh, la jolie petite Coccinelle, comment on t'appelle ?» Elle répond « Coccinelle ?»
Tout simplement.
Voilà qu'elle a enfin un nom et toute une allure.
Bien, si je devais me présenter, une personne super sensible, romantique, évidemment, ça va pas avec notre époque. Je suis restée très poupée Barbie, physiquement, pleine de choucroute sur la tête, des fossiles. Et j'aime bien être très maquillée. Si je pouvais faire mon marché en paillettes, je le ferais. Je n'aime pas du tout les robes de ville.
On l'appelle donc Coccinelle. Comme la bête à bon Dieu, tout comme elle, elle a des ailes qui l'emmènent où elle veut. Et ses ailes l'emmènent loin dans le firmament de la célébrité. Enflammant les scènes des cabarets transformistes Madame Arthur et le Carrousel, Coccinelle devient rapidement une vedette des nuits parisiennes dans les années 50. C'est pendant ce couronnement artistique qu'elle parviendra à avoir son opération d'affirmation de genre.
Mon meilleur souvenir, c'est le jour où on est venu me dire, mon avocat, ça y est, vous êtes dans le journal officiel, vous êtes une femme.
En effet, en 1959, suite à son opération, Robert Badinter, l'avocat et futur ministre de la Justice qui participera à l'abolition de la peine de mort en France et qui entamera des mesures de dépénalisation universelle de l'homosexualité, ce Robert Badinter défend le dossier de Coccinelle qui devient Jacqueline Charlotte à l'état civil. C'est la première célébrité française à officiellement changer de sexe, ouvrant ainsi la voie aux autres personnes transgenres. En 1963, Coccinelle se produit à l'Olympia dans le spectacle « Chercher la femme », écrit et mis en scène par Bruno Cocatrix. Le titre phare du show est éponyme. Se jouant du regard des curieux et offrant au public des paroles plus culottées, « Chercher la femme » devient la chanson signature de l'artiste. Forte de ce succès, elle entame dans la foulée une série de tournées qui la conduit dans le monde entier. Coccinelle devient une star internationale. Les pays d'Amérique du Sud se l'arrachent et en Australie et en Allemagne, on lui propose des résidences de meneuse de revue. Devenue icône transgenre, sa chanson devient un hymne pour la communauté trans.
Maintenant, ce sont les autres qui m'imitent. Oui. Par exemple, chez Michou, dans les boîtes, elles font toute cette chanson que j'ai créée à l'Olympia, « Chercher la femme ».
En 1987, la célébrité est invitée sur le plateau de l'émission « Les dossiers de l'écran » qui propose ce soir-là un débat sur la transidentité. Coccinelle revient sur son expérience et milite en faveur de l'opération et des droits des personnes trans.
Si un être est malheureux, on se fait bien rectifier le nez, pourquoi on ne ferait pas le reste? Je fréquente tous les pays du monde à longueur d'année. J'en connais 2000 opérés. Moi, je n'appelle pas ça des transsexuels, je dis les femmes de l'an 2000. Car nous serons les femmes de l'an 2000 bientôt. J'en connais 2000 à travers le monde qui sont superbement heureuses, bien dans leur peau, qui s'amusent.
Malheureusement, aujourd'hui, Coccinelle est morte. Et ses droits ne sont pas encore tous acquis. À l'initiative de son ami Bambi, la promenade Coccinelle est inaugurée en 2017 à Paris. Il s'agit de la première inauguration d'une rue en hommage à une personne trans en Europe et dans la capitale d'un pays. Cherchez-la, c'est une promenade charmante. Et si vous la trouvez, vous serez ravis.
En me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. Je n'ai qu'un seul programme. Ce soir, c'est de tout faire pour vous plaire. Cherchez, cherchez la femme. Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air. Quand un cycliste perd les pédales,
on sait bon, ça fait un scandale.
Quand un jockey n'est plus dans la course,
on se dit t'es mort de trois sources.
Quand un coiffeur boucle ses valises,
on doit faire sa psychanalyse.
Quand un pompier a le feu quelque part,
on s'étonne d'un événement aussi bizarre.
Cherchez, cherchez la femme. Son charme est dangereux, oui messieurs, partout dans tous les drames. Toujours c'est une femme qui mène le jeu, elle a tout un programme de trucs qui rend de fou, méfiez-vous. Cherchez, cherchez la femme. C'est elle uniquement la cause de tout.
Cherchez la femme.
C'est pas mal comme programme.
C'est là notre souci, Dieu merci.
Et notre joie aussi.
On perd des kilogrammes.
Ce n'est pas un drame. Et même ceux qui nous blâment, un jour change d'avis, c'est la vie. Cherchez, cherchez la femme. Et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, vous en serez ravis.
Cherchez la femme de Coccinelle, une sélection de Cédric. Est-ce que tu peux nous donner des références un peu si on veut en savoir plus sur Coccinelle ?
Eh bien, pour en savoir plus sur elle, elle a écrit son autobiographie, Coccinelle par Coccinelle, aux éditions Filippacci en 1992. Alors, au sujet de ce livre, il est sorti en très très peu d'exemplaires et on le retrouve seulement en occasion entre 50 et 307 euros. Voilà, si vous avez le budget.
Yes.
Autrement, il y a un album quand même, parce qu'elle est chanteuse tout de même, un album Coccinelle Star du Carrousel, avec 20 titres qui sont sortis en 2004. Il y a également un superbe reportage photo de Lina sur son mariage en 1962, qui a fait d'elle la première femme trans à se marier. La cérémonie en mairie et à l'église a été diffusée à la télévision et au JT, comme celui de Johnny et Sylvie finalement.
La classe. Maintenant, pour tous ceux qui nous écoutent en direct, nous lançons un petit jeu. Donc, si vous nous écoutez dans votre radio, pour l'instant, les ateliers du vent, on reste calme, c'est après pour vous. On vous pose une question concernant la chronique de Mado sur Julie Debini. Si vous répondez correctement avant la fin de l'émission, vous pourrez remporter quelque chose de très très élégant. Clara a préparé des bracelets What Would Jean-Michel Blanquer Do.
C'est dur à dire, hein.
John c'est Michael. Pas facile à dire.
John Michael.
Mais voilà, vous pourrez remporter ça. Donc Mado, quelle est la question ?
La question, je ne sais pas combien de points. Quel type d'épée maniait Julie Debini ?
Voilà, quel type d'épée maniait
en
Julie Debini ?
Il y en a trois.
À quel moment Mado a bafouillé dans sa chronique ? Ce moment qu'il ouais. fallait être attentif. Si vous avez la bonne réponse, écrivez vite sur Instagram @queer_me_out. Voilà, le prochain morceau que vous avez choisi. Sortez les briquets. Et donc maintenant, c'est Miley qui est là. Du coup, ce n'est plus Laurine. Wouh, ça change.
Salut Miley.
Salut Miley.
Hello.
C'est une régalade. Alors là, c'est votre moment, les Ateliers du Vent. C'est un peu le moment blind test. On va laisser la surprise. On va jouer avec le public des Ateliers du Vent. La personne qui criera en premier le titre de la chanson, et attention, le titre, remportera. Alors, pas de bracelet parce qu'on les a pas là, mais on a plein de cadeaux de ouf. OK ? Donc, dès que le titre se lance, la première personne qui donne la bonne réponse remporte le cadeau.
Yes. On voit qui était en manif aujourd'hui.
Ouais.
Tiens,
My love has got no power, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire.
Alors, c'était quoi comme titre ?
Bah, c'était Free From Desire de Gala.
Ouais. C'était la folie dans les ateliers du vent, là. Du coup, Maëlie, parle-nous un peu de ce titre.
Oui, alors je voulais le passer parce que je kiffe ce titre. Bah, ouais. C'était pour mon plaisir personnel. Et puis apparemment, ça fait plaisir à d'autres gens.
Je crois que les gens aiment bien.
Et puis surtout, le mois dernier, j'ai été un petit peu titillée par comment il a été utilisé ce titre. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Si, bien sûr, bien sûr.
Le mois dernier, il y avait quoi ? Il y avait la Coupe du Monde au Qatar. Et du coup, ce titre a été un peu utilisé et je voulais un peu poser les bases de cette chanson parce qu'elle a un peu une histoire et de par ses paroles et son utilisation. Donc, c'est une chanson anticapitaliste.
D'accord.
Donc, pour le Qatar, c'est pas ouf. Hein. Donc, vraiment, anticapitaliste et Qatar, ça va pas trop ensemble.
Ouais.
Et aussi parce que elle est pas mal utilisée dans les manifs, notamment LGBT. Et ouais. Pareil,
oui.
LGBT et Qatar. Ça le fait pas.
Pas ouf non plus.
Ça le fait pas ouf. Donc, ça m'a un peu énervée de
donc
voir.
Donc, tu te réappropries ce morceau. Super.
Bah oui,
t'as bien fait.
Voilà,
t'as...
Je voulais poser les bases et dire que non, on peut pas utiliser ça au Qatar dans un pays qui condamne l'homosexualité, entre autres. Et le torture. Du coup, c'est le genre de truc, cette récupération qui m'a donné envie de. Qui m'a un peu énervée et envie de sortir les briquets. Et c'est là, auto-promo.
Voilà, oui, parle-nous un petit peu de l'émission. Quel mot magique. Tu fais mon travail. Du coup, sortez les briquets. Mais qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est un gang de hyènes. Donc c'est pour ça que je vais appeler Laurine pour pouvoir parler de cette
deuxième
émission.
Hyène.
Voilà.
Oui, bonjour.
Donc c'est une émission musicale qui passe tous les mardis à 20h sur Célab où on passe 100% de personnes minorisées, donc c'est-à-dire les femmes et personnes minorisées de genre. Mmh. C'est un peu tous les styles. On fonctionne en rubrique. Donc, voilà,
c'est un peu les coups de cœur de vos équipes, c'est ça ?
Ouais, absolument, c'est que de la bonne musique en fait. En toute objectivité, bien sûr. Donc,
c'est ça la discrimination positive.
C'est ça. Une heure de bonne musique, quoi. Une heure de bonne musique en fait, hein, c'est ça.
C'est exactement ça. Et on fait aussi des courriers du cœur, parce que vous faites des courriers du queer, mais nous on fait des courriers du cœur où chacun et chacune peut nous donner un titre, bien sûr, de meuf ou personne minorisée, et en nous donnant un petit texte qui explique à quoi ça lui fait penser, et nous on le lira.
Trop chouette.
N'hésitez pas.
Sur la page Instagram, sortez les briquets.
C'est ça. Et donc on est plusieurs, et pareil, comme là les Ateliers du Vent font un live. On aimerait bien faire des lives.
C'est plutôt cool les lives.
Ouais.
Vous sortez les briquets en live.
Oui.
On en pense quoi les ateliers du vent ? Sortez les briquets en live ? Ouais. Une programmation d'une heure musicale. Ça
quelqu'un a sorti un briquet.
Il y a des gens qui sortent les briquets du coup. Le vide éternel. Ne foutez pas le feu les gars, déconnez pas. L'émission n'est pas finie. Donc sortez les briquets. Donc pour l'instant, c'est quand les diffusions ?
C'est le mardi à 20h sur Célab et on alterne entre une émission en groupe et une émission où c'est la playlist de chacune.
Super. Donc le mardi à
20h.
20h, c'est bien ça. Eh bien, il est temps de sortir l'agenda maintenant. Avec, on l'a dit, Daydream, la séance gratuite à l'Arvor à partir de 20h30 ce soir. C'est dans 30 minutes. Allez-y en courant. Mado.
Ce samedi 21 janvier à la bibliothèque de Lamballe, à 16h, il y aura une rencontre avec l'illustrateur Zanzim qui a illustré la BD Podum. Et ensuite à 18h30, pour les enfants, il y aura lecture de contes à la bibliothèque.
Ah bon ?
Oui.
J'en ai pas entendu parler du tout.
Donc pour Podum, c'est pour les adultes et pour les contes, c'est pour
tout
les
public,
enfants.
Tout public pour les contes. D'ailleurs, oui, il y a une toute petite polémique. Merci pour votre soutien. En tout cas, on en profite pour d'avoir le micro pour dire ça. Merci pour votre soutien. Merci pour cette manifestation ce matin. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Voilà. C'était pas pour ça ? Ok. Autant bon.
Mathieu, t'es encore confondu.
Ah, pardon. Clara, qu'est-ce que tu nous proposes dans l'agenda ?
Moi, j'adore la bouffe, donc je vous propose le pique-nique des familles arc-en-ciel qui se déroulera le 5 février dans les locaux d'Iskis. Donc, qu'est-ce que c'est le pique-nique famille arc-en-ciel ? C'est un pique-nique où vous pouvez venir seul ou accompagné de vos gens préférés. Donc, ceux qui constituent votre famille, on le rappelle, ce n'est pas forcément les gens qui ont un lien de sang avec vous, mais les familles de cœur, ça marche aussi.
Ça marche.
C'est évidemment ouvert à absolument tous les publics. Il y a même une bibliothèque jeunesse queer féministe qui sera là pour offrir des contes non stéréotypés aux enfants. Donc, la seule condition, c'est de venir entre 11h et 14h30 et de ramener son manger, tout simplement, aux locaux d'Iskis.
Le 5 février, le pique-nique. Et Cédric ?
Eh bien, moi, je vous propose le 25 janvier d'assister au vernissage de l'exposition Portrait Drag à Rennes 2, menée par l'association Multiregard.
Voilà, donc toujours dans le cadre du Focus Queer.
Exactement.
Et on rappelle que Cédric sera avec le collectif La Drague
le 26
au tambour. Mais c'est complet, mais on le rappelle parce que ça fait plaisir.
Reprogrammez-moi.
Et enfin, le 29 janvier, vous retrouvez un bingo drag au rendez-vous du dimanche à l'association du Bourg-l'Évêque. Et on va vous distribuer plein de flyers et tout. Il est temps de lancer le tapis de fin que je remercie toute l'équipe. Vous pouvez écouter cette émission et toutes les précédentes sur Spotify, etc., toutes les plateformes de podcast, etc. On remercie Kevin et Timothée en régie. Profitez-en rarement du public qui nous applaudit. Merci à tous autour de la table, Mado, Cédric, Miley, Laurine, Maël qui est au cinéma de à l'Arvor en ce moment, Emilien et Clara.
Merci Mathieu.
On se donne rendez-vous pour notre prochaine émission le jeudi 2 février. Ne partez pas, place à la musique avec Jean-Kev. Si vous voulez venir vous ambiancer aux Ateliers du Vent, c'est jusqu'à minuit, il n'est pas trop tard, donc vous pouvez encore venir vous amuser. Merci à vous, bisous.
Salut.
Au revoir.